que je remercie Bart de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi de parler devant vous. En fait, comme j'avais un petit peu au départ aussi fait mon topo sur... oui, c'est mieux. Sur la maladie de Stargardt et les rétinopathies, j'ai avec... Vivienne Turner, plutôt un peu orienté mon, enfin après son accord, orienté un petit peu mon topo sur les formes précoces de ces rétinopathies. Alors c'est un petit peu un sujet dont vous entendez peut-être moins parler, mais maintenant qu'il va y avoir la thérapie génique, en fait, avec cette thérapie, si on veut avoir les meilleurs résultats possibles, il va falloir traiter le plus précocement possible. Et donc il faut, je vais vous montrer à partir de quelques cas comment il faut qu'on soit très attentif aux symptômes de début qu'on décrit, que vient de décrire mon collaborateur, et de bien écouter les patients et alors ce sera surtout des enfants puisque des formes très précoces en fait ça commence surtout chez les enfants. Donc l'héméralopie, les troubles de vision des couleurs et les photophobies. Donc l'idéal en fait ce serait de faire le diagnostic au stade qu'on appelle infraclinique, mais ça pose un petit peu des problèmes éthiques actuellement de savoir quelles sont les formes infracliniques puisque comme on n'a pas de traitement à proposer, faire un diagnostic ultra précoce chez un enfant ou même chez un adulte, enfin surtout chez un enfant, ça peut poser des problèmes parce que l'avenir de cet enfant ou sa façon de vivre au quotidien, le fait de savoir qu'il a une maladie qu'il va développer, peut-être la développer, on ne sait pas dans combien de temps encore, actuellement ça pose un problème. Alors on a quand même réussi à savoir quels sont ces signes ultra précoces sur des cas dont je vais vous montrer pourquoi on a été amené à faire, parce que normalement on ne fait pas d'examen chez des enfants qui n'ont pas de symptômes. Chez un mineur qui n'a pas de symptômes, on ne doit pas chercher ces symptômes et on ne doit pas faire de... Enfin, au moins en France, c'est comme ça, mais je pense que c'est pareil ici. On ne peut pas faire une prise de sang à un sujet asymptomatique. Ce qui sera aussi important de savoir, c'est si la pathologie, déjà de la phase précoce, est-ce que ça va être une pathologie évolutive? Est-ce qu'elle va évoluer de façon très rapide? Et savoir dans quel délai, entre ces signes très précoces et... les manifestations gênantes, quel délai il va y avoir? Parce que finalement, si on voit des signes très précoces et que ça ne se développe jamais, par exemple, est-ce que il va falloir traiter? Donc moi, je vais surtout poser des questions, là, en fait, hein, puisqu'on arrive à la thérapie génique et ça peut... Et d'autre part aussi, on peut avoir des symptômes ophtalmologiques qui précèdent de nombreuses années avant des signes d'une maladie plus générale. Faudra-t-il traiter l'œil? Faudra-t-il traiter la maladie générale? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Donc, je vais vous montrer quelques cas. Chez un enfant qui avait une baisse d'acuité visuelle à fond d'œil normal, puisque c'est comme ça que se présentent souvent les pathologies, on peut se poser la question, est-ce que c'est une rétinopathie? Est-ce que c'est une neuropathie? Ou est-ce que c'est ce qu'on appelle une simulation, une cause non organique? Ça, c'est un gros problème chez l'enfant. Il y a beaucoup d'enfants vers l'âge de 9-12 ans. C'est l'âge aussi, entre parenthèses, des enfants qui ont des baisses de vue non organiques. Et il faut vraiment bien écouter cet enfant, et le diagnostic de, entre guillemets, simulation, ça ne peut être qu'un diagnostic absolument d'élimination. Il faut d'abord qu'on fasse les autres examens, et ici, je vous montre le cas d'un petit garçon, Rémi, mais c'est pas le seul, tous les ans, on a encore des enfants comme ça, qui se plaint d'une baisse d'acuité visuelle. En fait, quand on regarde le carnet de santé, il avait bien dit dixième à l'âge de 6 ans, nous on le voit à l'âge de 12 ans, alors qu'en fait, depuis l'âge de 10 ans, il se plaint d'une baisse de vision. Et puis les examens, fond d'œil, tout est normal. Et puis il y a quelques problèmes, il y a un petit frère qui est né, etc. Et on a fait un problème psychologique, et il est suivi psychologue. Et les parents ne comprennent pas pourquoi cet enfant dit qu'il ne voit pas clair, alors qu'il voit tout à fait clair. Et finalement, il arrive dans notre service. C'est vrai que son fond d'œil, on commence à avoir un tout petit quelque chose au niveau maculaire, mais en fait, l'année précédente, on ne devait rien voir du tout. Et donc, quand c'est comme ça, l'examen à faire, c'est ce qu'on appelle, le premier examen à faire, c'est ce qu'on appelle, donc je vous ai montré sur la machine à gauche, comment on fait chez un enfant, c'est facile, c'est l'OCT, donc vous avez tous entendu parler et fait certainement un OCT. Et un OCT, c'est très facile à faire chez un enfant à partir de l'âge de 3-4 ans. En fait, les gens pensent toujours qu'on peut pas faire, mais si. Et on peut aussi faire des OCT chez le tout petit. En fait, c'est comme on fait l'examen de l'œil, je sais pas si vous avez vu la lampe à fente, chez le bébé, on le pose devant la lampe, et maintenant on le pose devant l'appareil, et on filme on filme tout ce qui passe et à la fin, on peut extraire une image de et avoir des diagnostics très précoces. Donc là, j'ai montré que des grands enfants. Il y a aussi un autre examen qui est un petit peu plus compliqué, mais qui là va aussi permettre de préciser les anomalies. C'est ce qu'on appelle les clichés en autofluorescence. Mais ça, les enfants, ils aiment moins bien. En général, c'est plus vers 4-5 ans qu'on y arrive parce que c'est éblouissant. Donc l'OCT, il n'y a pas de problème, ils ont une petite croix bleue, à chaque fois ils nous disent « Ah oui, j'ai fixé la croix bleue, ben c'est bien, voilà, pour eux ils ont fixé la croix bleue, c'est indolore, c'est vraiment très, très pratique. » Donc cet enfant-là en question, il avait, en haut je vous ai mis un OCT normal, alors je ne vous demande pas de savoir lire un OCT, mais vous voyez bien la différence, ici on a la ligne qui correspond un peu au photorécepteur, et là en fait il y a une interruption. Et rien qu'avec cet examen, on peut mettre l'enfant pendant quelques secondes devant l'appareil et on se rend compte qu'on ne va pas gâcher l'existence de cet enfant et de sa famille. Parce qu'en fait, un diagnostic qui n'est pas fait ou un diagnostic erroné, moi ce que j'ai vu, je suis les enfants maintenant aussi après à l'école dans les centres de malvoyants. En fait, quand vous faites un diagnostic ça c'est une maladie de Stargardt, de maladie de Stargardt ou de rétinopathie chez un enfant, c'est difficile à annoncer, il y a une acceptation qui n'est pas facile chez les parents, mais ce que j'ai remarqué, c'est que si au départ, il y a eu un faux diagnostic, en fait, cette acceptation, elle ne vient jamais. Et en plus, parce qu'il y a une culpabilité des parents, parce qu'ils n'ont pas cru leur enfant qui avait une maladie. Ils ne l'ont pas cru, et ça, ils le ressortent, et 10 ans après, on en entend encore parler, quand je pense qu'on lui a dit qu'il racontait n'importe quoi, etc. Donc ça, c'est pour ça que c'est hyper important qu'on fasse attention à ça. Et encore plus, il y a certaines maladies qui sont des maladies générales, graves, par exemple une maladie qu'on appelle la stéroïde lipofuscinose, qui peut commencer de la même façon. Et alors, quand l'enfant, après, a une maladie grave et que pendant... Les parents, ils ont l'impression d'avoir perdu une année ou deux de contact intéressant avec leur enfant. Et ça, c'est difficile. Donc voilà, donc ça c'est pour dire qu'il faut qu'on écoute bien les symptômes. Ici c'est une petite jeune fille qui est venue aussi, donc elle vient pour baisse d'acuité visuelle, elle avait 6 dixièmes, en fait elle arrive, elle n'avait pas, je ne sais pas pourquoi, elle n'avait pas eu une mesure de lunettes, ce qu'on appelle sous-cycloplégie, c'est-à-dire qu'elle dégoutte, et puis quand on a fait ça, on voit qu'elle a astigmate, je lui mets les lunettes, elle a 10 dixièmes, je dis à un moment, ben, c'est un problème de lunettes, et à ce moment elle me dit, mais pas du tout. En fait, elle ne voit pas la nuit, ce qu'a expliqué Laurent tout à l'heure. Elle ne voit pas la nuit, elle insiste lourdement. Moi, je me dis, c'est bien, ma consulte est finie. Non, elle ne... Donc, je me dis, on fait un fond d'œil. Au fond d'œil, on ne voit rien du tout. Mais devant l'insistance maternelle, je me dis, on va faire un OCT. Mais à l'OCT, on ne voit pas grand-chose. On voit des petites bricolettes. Mais vraiment, et la petite fille, elle dit non, à un moment, elle dit elle sort pas la nuit, c'est quand même pas banal chez un enfant. Donc, on est allé plus loin, on a fait ces clichés qu'on appelle en autofluorescence, on ne trouve pas grand chose. On l'a fait regarder sur le côté droit, alors là, je vous demande de me croire, en fait, on voit sur ce cliché des toutes petites anomalies. Et c'est là qu'on a fait ce qu'on appelle l'électro-rétinogramme. Je vous montre juste comment ça se passe. Maintenant, chez les enfants, on peut utiliser chez les grands enfants des électrodes qu'on appelle des électrodes cutanées, et ça n'est pas invasif. Et en fait, là, en réalité, chez cette jeune fille, moi, je m'attendais à ce que ce soit normal. Donc, c'est parce que la maman a insisté que j'ai quand même fait l'ERG. Et comme il n'est pas invasif, qu'elle était déjà dilatée, et c'est là qu'on a eu la surprise de constater que l'électrorétinogramme était complètement plat. En fait, l'image, là, la précédente, je l'ai faite après. Donc, c'est avec l'électrorétinogramme plat. Donc, cette héméralopie, c'est quand même un des premiers signes de la... Quand on interroge les parents, en fait, c'est un signe qui n'est pas retenu. Pas forcément, les parents, ils vont pas consulter pour ça, mais quand on leur pose la question, ils vont le dire. Et quand ils vont consulter pour ça, en fait, on les écoute pas forcément. Et voilà. Donc... il faut que vous assistiez. Ici, c'est la même chose. Un autre cas, c'est un petit garçon de 5 ans. Donc là, trouble scolaire, difficulté à lire, à trouver un objet au sol, mais aussi très ébloui au soleil. Donc sa vision allait à 7 dixièmes à droite et à gauche. Bon, c'était considéré comme normal. Et quand on fait le fond d'œil, en fait, il a un fond d'œil complètement dépigmenté. Il est blond. Donc la question qui se pose, c'est est-ce un albinisme? Est-ce qu'il est blond? et que là, ça peut être un fond d'œil d'enfant blond. Mais il n'a pas 10 sur 10, mais on se dit, il n'a pas bien répondu, il était un petit peu agité sur sa chaise. Et là, la maman insiste lourdement en disant, mais non, mais en fait, ce qui est apparu récemment, c'est qu'il ne voit pas la nuit. Bon. Et puis après, elle nous dit, mais sa grand-mère a une rétinite pigmentaire. Quand vous voyez le fond d'œil d'albinos, et elle me dit, bah, écoutez, madame, votre fils n'a pas, y a pas la rétine pigmentaire. Si, 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 elle me dit, c'est les mêmes signes que mon frère, voilà. Alors, c'est là qu'on se dit, bah, puisque c'est les mêmes signes que son frère, on fait un OCT et on voit sur l'OCT qu'en fait, il y a des signes de la rétinite pigmentaire, mais sans pigment. Et sur l'autofluorescence, en fait, on confirme que c'est une rétine pigmentaire. En fait, c'est une rétinite pigmentaire liée à... Chez l'enfant, on peut avoir très fréquemment des rétines pigmentaires avec des fonds d'yeux soit normaux ou des fonds d'yeux d'albinos. Donc, les signes fonctionnels, je réinsiste finalement sur ce qu'a dit mon collègue juste avant, il faut vraiment écouter la clinique. Alors maintenant, je terminerai donc sur ces cas ici. En fait, c'est une petite fille dont le frère a une maladie de Stargardt, donc c'est pour ça qu'on a eu des trucs, et cet enfant vient parce qu'elle a une baisse de vision importante, elle se plaint d'une baisse de vision, et on l'a fait lire, elle a 10 dixièmes à chaque œil, et donc avec une toute petite correction optique, mais une correction optique illusoire. Hein, donc on dit à la maman qu'en fait cette jeune fille, comme les parents sont beaucoup préoccupés, puis c'est à l'âge de 10 ans, c'est l'âge auquel en fait on a les enfants qui font les problèmes de vision psychologique aussi. Donc, c'est ma collègue qui l'avait vue, elle dit aux parents, mais voilà, elle a rien, ne vous inquiétez pas, mais les parents sont très inquiets. Ils disent, mais non, elle se plaint, elle dit qu'elle n'a pas 10 dixièmes, etc. Et donc, pour la rassurer, ma collègue dit, bah, écoutez, on va faire un OCT, et comme ça, c'est pas la peine, on va pas faire des examens plus invasifs, on va lui faire l'OCT, et vous verrez, elle n'a rien. Et c'est là, en fait, qu'on a vu des signes hyper précoce de ce qu'on appelle de la maladie de Stargardt, c'est-à-dire qu'en fait, on a un gonflement des cellules derrière, au niveau de la zone centrale de la rétine. Il n'y a pas une destruction, c'est juste un gonflement qui commence comme ça. Donc ça, c'est vraiment le signe hyper précoce, et on l'a rencontré chez d'autres enfants dans les mêmes circonstances, en fait, mais elle a vraiment une très bonne vue. Mais malheureusement, son problème a évolué dans les années suivantes. 2 ans après, en fait, elle avait, 2 ans après, elle avait 2 dixièmes et 4 ans après, 1 dixième. Par contre, j'ai une autre jeune fille qui a été dans les mêmes circonstances. Là, je suis à 4 ans après, mais c'est survenu un peu plus tard. Là, elle a 21 ans. On l'a vue la première fois il y a 5 ans. Elle a toujours 16 dixièmes. Mais au niveau de l'imagerie, ça s'aggrave. Donc, en fait, ça, ce serait les bons cas où, enfin, à mon avis, c'est à ce niveau-là qu'il faudrait traiter. Mais est-ce qu'on va avoir autorisation de traiter des gens qui n'ont aucun symptôme ? Parce que le champ de vision n'est pas altéré, l'acuité visuelle n'est pas altérée, et la vision des couleurs non plus. C'est juste une altération sur les examens. Donc ici, pareil, une petite fille dont les deux frères ont une dystrophie des cônes, et la maman me dit... Ah, elle se trompe dans ses couleurs. Nous, on lui fait l'examen des couleurs, elle a une erreur. Mais à un moment, on dit, ah, mais je la surveille, je peux vous dire qu'elle ne se trompait jamais dans ses crayons de couleurs, et maintenant, elle se trompe. Donc, pareil, on a fait l'OCT, alors là, on a vraiment presque rien, on a 2 tout petits trous de rien du tout sur la ligne, et sur l'autofluorescence, on a un tout petit anneau comme ça. Mais en fait, elle fait une forme débutante. Ce qui est que les filles, en général, ça n'a pas du tout de trouble de vision des couleurs. C'est rare. Et en fait, elle a une dystrophie des cônes débutante. Mais elle, on la suit genre depuis 5 ans, ça n'a toujours pas évolué. Ça évolue plus lentement que la maladie de Stargardt. Voilà. Donc, en conclusion, la diagnostic de rétinopathie héréditaire au tout début nous semble très important dans l'objectif de thérapie future, mais dans l'immédiat, ça pose des problèmes éthiques, puisque s'il n'y a pas le traitement possible immédiatement, je ne suis pas sûre. Alors, il faut vraiment s'entourer de précautions, qu'il faille annoncer à l'enfant qu'il a la maladie et qu'il va peut-être la faire. Je pense que c'est important juste s'il y a des orientations professionnelles particulières à prendre, ce que j'ai fait avec la jeune fille qui avait 21 ans, puisqu'elle voulait choisir un métier où elle devait avoir une vision importante. Et après, l'autre problème, ça sera pour les maladies oculaires qui commencent par l'œil et qui pourraient être des maladies générales. Est-ce qu'on va traiter l'œil et puis après, plus tard, traiter la maladie, ou est-ce qu'on traitera la maladie et l'œil? Donc en fait, on n'a pas fini de se poser des questions. Mais les formes précoces, ça, une fois que les traitements seront vraiment validés, je pense qu'on pourra. Voilà. Merci.